Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Le 24 mai, La Rose des Vents proposait un sujet sur la situation des droits de l'homme au Kivu, en République démocratique du Congo, et les chambres foraines, un instrument pour lutter contre l'impunité. Le 31 mai, nous recevions Kadi Absouba, journaliste pour Radio Okapi, et Mike Hoffman de Vivere, qui évoquait le combat quotidien des femmes au Kivu. Et ce soir, Daniel, nous allons même parler tout de suite de la tragédie des minerais en République démocratique du Congo, et plus précisément du scandale géologique qui touche la région du Kivu à l'est du Congo. Bon, alors, qu'entendons exactement par un scandale géologique ?
Alors, le sous-sol du Congo regorge de richesses minières, appelées aussi minerais de sang. Ces ressources géologiques, comme l'or, l'étain et le coltan, font l'objet, au Kivu, d'un pillage systématique et constituent un véritable marché national et international au détriment des populations qui vivent dans cette région. Région qui comprend, entre autres, 80% des réserves mondiales de coltan, un minerai nécessaire à la production de certains ordinateurs, des téléphones mobiles et des consoles de jeux. Le cœur du problème réside dans le fait que cette richesse ne profite pas au développement national et génère des conflits sans fin entre différents acteurs intérieurs et extérieurs.
Alors effectivement, cette guerre est avant tout une guerre africaine ?
Pas tout à fait. Disons que le Kivu reste le terrain de jeu de plusieurs acteurs défendant des intérêts politiques, stratégiques et surtout économiques. Tout le monde rêverait de s'approprier le sous-sol congolais, ou du moins d'en tirer profit. Nous en parlerons avec notre invité.
Effectivement, j'imagine bien que tout le monde a envie d'en profiter. Alors, quelles sont les conséquences de ce pillage géologique au plan humain, puis aussi environnemental ?
Alors, le problème, c'est que le mode d'acquisition, comme l'exploitation de ces ressources, porte préjudice aux écosystèmes naturels et porte atteinte aux droits de l'homme. Massacres, violences faites aux femmes et travail forcé des enfants dans les mines et les carrières. Et c'est dans ce cadre que certaines ONG parlent de malédiction des matières premières. 6 millions de morts depuis 1998, 4 millions de déplacés qui font de ce conflit le plus meurtrier après celui de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cette raison que ces minerais sont appelés les minerais de sang ou les minerais préférés du diable, titre du dernier livre de notre invité de ce soir, Germain Dibemzi Bayedi.
Bonsoir Germain.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Django. Vous êtes d'origine congolaise, vous êtes installé en Suisse depuis quelques années. Journaliste de formation, vous êtes l'auteur de Procès Mobutu, publié en 2010 aux éditions Percé. Oui. Cette fiction politico-judiciaire a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation théâtrale en janvier 2016, qui a remporté un certain succès à Lausanne. Inconditionnel de la plume durant la préparation de la pièce, vous continuez d'écrire et publier en mars 2016, par exemple, aux éditions Yveline Éditions, Les minerais préférés du diable, tragédie au Kivu. Que raconte ce livre basé sur des faits réels ?
Oui, c'est un livre qui raconte la tragédie qui se passe au Kivu. Depuis déjà près de 2 décennies, sur ces coins de la planète, il se passe des crimes monstrueusement, vraiment effroyables, et que des populations se font décimer. Il y a une sorte de pillage des ressources minières de la région. Et puis, il y a les viols des femmes. Il y a même certains rapports qui disent que désormais, les Kivu, c'est la partie concernée, est devenue la capitale mondiale du viol. Et ces viols sont souvent suivis par des mutilations génitales. Et puis, il y a une sorte d'exclusion des femmes violées. Donc, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Mais est-il que ce qu'il faut retenir, que dans cette partie de la planète, il se commettent des crimes vraiment, vraiment effroyables.
Mais alors, est-ce que cette région-là, on en parle, vous la connaissez, cette région ? Est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, c'est parce qu'on la connaît un petit peu, qu'on peut dire qu'elle est extrêmement mutilée, qu'elle est extrêmement violente, etc. ?
Mais c'est comme l'avait dit Daniel tout au départ, c'est un terrain de jeu de plusieurs acteurs internes et externes, et que c'est un terrain qui attire vraiment, franchement, Il y a tellement de richesses là-bas. Les gens disent même qu'il n'y a qu'à se rabaisser pour ramasser des minéraux.
Germain.
Ça veut simplement dire que c'est ça le nœud du problème.
Avant de revenir au jeu des acteurs, il serait intéressant de comprendre un petit peu le contexte du livre. Vous dites avoir écrit ce livre avec, en versant l'encre de vos larmes. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui vous a écrit à conduire ce roman ? C'est votre profession de journaliste ou c'est plutôt un plaidoyer contre la barbarie humaine et l'injustice ou des origines du Kivu ?
C'est un peu les tout à la fois. Apparemment, vous avez tout dit. Donc, d'abord, en tant que journaliste, je dois informer, je dois dénoncer, mais je me suis toujours considéré comme étant un observateur de la société. J'observe ce qui se passe dans la société. On essaye un peu d'être une sorte de voix des sans-voix, parce que les gens souffrent là-bas et que des fois, ils n'ont toujours pas l'occasion de s'exprimer ou de se faire entendre. Et nous substituons à eux, en fait, en écrivant, oui, en écrivant, en dénonçant, en informant et à essayer un peu de veiller les consciences.
Vous affirmez dans votre livre qu'il n'y a jamais eu d'objectif politique dans cette guerre. Mais qu'est-ce qui justifie alors ce conflit et quels sont les principaux acteurs ?
Alors, ce qui justifie ce conflit, c'est la cupidité. Vous savez, à la base, l'être humain a une tendance naturelle à vouloir s'accaparer de quelque chose qu'il peut saisir. Et les voisins de la RDC, les pays limitrophes de la RDC, les Rwanda, l'Ouganda, Burundi et les grandes puissances, ils se disent que... Mais, nos voisins, les Rwandais peuvent le dire, hein, nos voisins, ils ont des minerais, ils sont riches, mais on peut les avoir. Alors, on les prend. C'est ça, le problème. Donc, cette guerre est motivée d'abord par la cupidité. Il y a tellement des enjeux économiques qui sont...
Mais c'est plutôt la soif de l'argent, en
justement,
fait.
Justement.
Mais ouais. Il serait intéressant aussi d'expliquer que peut-être, dans le rôle que peut jouer le Rwanda dans cette région, c'est qu'il y a une convoitise des terres parce qu'il y a un problème démographique et il n'y a plus suffisamment de place, en fait, pour les habitants du
justement,
Rwanda.
Justement, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ces conflits armés à répétition. Hein. Et on peut déceler des problèmes d'ordre territoriaux, des problèmes démographiques et par-dessus tout économiques. Voilà, on connaît bien, c'est une région qui est minée par des problèmes de manipulation identitaire, problèmes d'insécurité et des stéréotypes de tout genre.
Donc quand on parle de manipulation identitaire, il serait peut-être intéressant de préciser qu'effectivement, en 1910, il y avait des Rwandais qui étaient déjà installés au Congo, dans cette région-là. Et c'est quand il y a eu la partition, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, et notamment la colonisation, que finalement, en fait, ces Rwandais ne se sont plus retrouvés chez eux. Et il serait peut-être important aussi, pour que nos éditeurs puissent comprendre les différents enjeux.
Oui. Justement, on peut dire qu'il y a des causes lointaines, des causes immédiates, il y a plusieurs causes.
Mais est-ce que vous pensez que le conflit repose sur des causes lointaines ?
Moi, je l'ai toujours pensé, parce que moi, je peux me remonter un peu plus loin, vers les années 1800, où il y a des images qui montrent que, par exemple, les Belges qui arrivent sur place, qui trouvent que dans les territoires rwandais, qui avaient deux peuples différents, donc les Hutus et les Tutsis. Et ils ont commencé à faire la différence. On voyait sur les images que les Belges qui arrivaient avec une sorte de machine, je ne sais pas quoi, et qui essayaient un peu de séparer la population sur base des frais, des traits phénotypiques. Donc les Tutsis d'une part et les Hutus de l'autre. Et ça, c'est des choses qui restent dans la tête. C'est ça, c'est semer un peu la division. On en parle peu ou même pas, mais il y a des images qui peuvent confirmer ce que j'ai dit. Donc, il y a des causes lointaines et petit à petit, voilà, il s'est mêlé beaucoup de choses, les intérêts économiques et puis les génocides. N'oublions pas les génocides rwandais qui ont engendré beaucoup de problèmes sécuritaires. Voilà, après les génocides, il y a beaucoup de Hutus qui sont... d'aller au Congo, parce que c'est l'hospitalité africaine, quelque part. Mais aussi, à l'époque, les Zaïre, c'était les Zaïre.
Donc
la RDC actuelle, il y avait un président qui était là, qui était contraint d'accepter ces populations hutus en fuite. Je me souviens, même, il y avait à l'époque, c'est François Mitterrand qui était le président français et qui a fait pression à Mobutu à l'époque. Donc, il était contraint d'accepter toute cette population hutue qui traversait la frontière congolaise.
Pour venir s'installer dans
Oui, ils s'y sont installés. Et c'est ce qui sert un peu des mobiles, quelque part, aux armées rwandaises actuelles.
Donc, et c'est ce qui explique Enfin, ce sont des raisons qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que le pays est dans la tourmente finalement depuis plus de 20 ans.
Justement, mais moi je pense qu'il y a, un plan, c'est-à-dire qu'il y a un plan et chaque plan a un concepteur. Et ceux qui ont conçu ces plans, ils n'ont pas choisi ces terrains de Kivu par hasard. Ils savaient très bien que c'est un terrain à problème. Comme j'ai dit, c'est un terrain qui est miné par des problèmes d'insécurité, des manipulations identitaires, des stéréotypes de tout genre. C'est ça, donc ils ont réfléchi à ça, mais tout ça parce qu'ils savaient ce qu'il y avait sur le sous-sol congolais. On a parlé du coltan, la réserve mondiale du coltan se trouve exactement dans cette région.
Dans cette région.
Et aujourd'hui, sans le coltan, eh ben, les grandes multinationales, leaders de téléphones et consorts, n'auront que leurs yeux pour pleurer. On le sait bien.
C'est donc le thème de votre livre.
Justement.
Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que finalement, quand on lit votre livre, vous dénoncez. Mais vous auriez pu aussi l'intituler J'accuse. Dans votre première fiction, Procès Mobutu, oui. Vous mettez en cause le régime Mobutu et en filigrane la communauté internationale. Dans votre dernier livre, donc Les minerais préférés du diable, vous êtes plus amer à l'endroit des puissances occidentales. Et dans quelle mesure pensez-vous que la communauté internationale porte une responsabilité dans ce drame du Kivu ?
Vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis un observateur de la société. Donc lors de mon premier livre, Les procès Mobutu, j'ai accusé tout un système qui est installé depuis longtemps en Afrique. Aujourd'hui, on se félicite, par exemple, qu'il y avait l'ex-président tchadien Hissène Habré qui a été condamné par une juridiction africaine. C'est une grande première. Donc moi, je me dis, ah ben j'ai bien fait d'écrire Procès Mobutu. Parce que c'était dans ce cadre-là. Ça dit que le but, c'est d'essayer un peu d'installer cette notion de responsabilité. Il faut que les responsables africains sachent qu'en en gouvernant, ils auront des comptes à rendre à la fin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi comme ça s'est fait. Donc, et dans les minerais préférés du diable, c'est vrai que la communauté internationale doit être accusée par son immobilisme, son laxisme, son hypocrisie.
Et en parlant de la communauté internationale, il serait aussi intéressant d'avoir votre regard sur ce marché des minerais,
oui.
Donc, qui est entretenu par différentes puissances occidentales, asiatiques, nord-américaines et asiatiques, qui achètent des produits miniers qui indirectement en fait, arment les belligérants.
Oui.
Il n'y aurait donc aucun contrôle de ce marché mondial, sauf la loi Dodd-Frank, qui a été instaurée donc par le Congrès américain en 2010. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative en deux mots, s'il vous plaît? Et le but de cette initiative était donc de stopper les importations frauduleuses.
En deux mots, je vais dire que c'est une loi qui est fortement critiquée, parce qu'on décèle derrière tout ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que dans la pratique, rien ne s'est fait. Les textes sont bons, on n'en disconvient pas. Mais le problème se pose au niveau de la pratique. Comment se fait-il qu'un pays comme le Rwanda, qui ne possède dans son sous-sol aucun minerai, pas les coltans, en tout cas, il n'y a pas, mais qui, comme par miracle, figure parmi les grands pays exportateurs de cette matière première qui ne possède pas. Et cette communauté internationale, elle est où?
Donc vous entendez que finalement ces minerais passent, enfin qui sont en fait récoltés de manière artisanale, passent de manière clandestine sur le Rwanda.
Ils sont certifiés conformes par le gouvernement rwandais. Donc c'est une mafia internationale. Raison pour laquelle quand vous allez là-bas, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a un complot contre la RDC, un complot à l'échelle internationale. Voilà qui alimente la théorie du complot.
Mais ce qui serait aussi intéressant de creuser, c'est que malheureusement, effectivement, il y a probablement un complot autour de l'extraction et de l'exploitation de ces minerais.
Bien sûr.
Mais il y a un autre problème qui se pose concernant les populations, parce qu'il semblerait que, suite à cette loi, finalement, les personnes du Kivu, en fait, qui travaillent dans les mines, ne touchent plus du tout d'argent.
C'est vrai.
Il y a une pauvreté qui s'installe.
C'est vrai.
Mais c'est donc paradoxal. C'est terrible de s'imaginer que, finalement, cette population vit de l'extraction des minerais.
C'est pourquoi on a toujours voulu que les responsables prennent les choses en main, les gouvernements congolais, les acteurs de la région des Grands Lacs et la communauté internationale. Il faut qu'ils fassent leur travail. Ça dit que chacun doit se montrer efficace dans son rôle pour essayer un peu d'arranger un peu les choses. Parce que là, c'est vraiment c'est l'imbroglio, quoi. C'est le désordre, c'est une poudrière là-bas.
Et est-ce que vous pensez que votre livre, en fait, peut être un premier éveil, voire un xième éveil à cette problématique? Parce qu'il y a déjà plusieurs textes qui ont été écrits, il y a déjà plusieurs acteurs impliqués qui se rendent bien compte que c'est un fléau.
Justement, et nous, on va continuer à dénoncer. Voilà, c'est notre rôle aussi.
Eh bien, bonne chance en tout cas, merci Germain. Beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous faire ce plaidoyer contre l'injustice qui
s'est
mise
contre vous.
On rappelle, mourir est une règle, vivre une exception. Hein. C'est une phrase un peu profonde, mais qui a lieu d'être. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir pour nous parler de votre ouvrage. Et merci Daniel pour la préparation de ce sujet.
Merci.